Bien, d'abord, je me réjouis d'être ici avec des représentants de l'économie, et en particulier de l'économie de la santé, sachant que c'est un secteur d'activité qui est considérable, qui pose beaucoup de questions qui ont déjà été abordées ce matin. Et moi, je vais essayer de faire une communication, on va dire, la plus citoyenne possible, dans la mesure où j'ai compris que c'était l'objectif de ces journées de l'économie. Et je vais essayer de présenter ce qui est indiqué là sur le titre de mon diaporama, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une éthique des choix publics dans le secteur de la santé et, de manière un peu plus précise, l'apport de ce qu'on appelle l'évaluation économique. Donc, présentation citoyenne, pourquoi ? Parce que je vais essayer de décliner de manière progressive les enjeux éthiques de la décision publique et certaines réponses qui ont été apportées, en particulier, on le verra tout à l'heure, au Royaume-Uni, et dont je pense que dans une certaine mesure, mais là probablement Lise Rochex pourra nous en dire davantage, pourrait être décliné en France aussi. Alors, je rappelle juste, parce que quand même c'est bien de là qu'il faut partir, que le secteur de la santé en France, c'est 11% du produit intérieur brut, qui est lui-même de 1900 milliards d'euros à peu près, et que le financement public de la santé en France, c'est 8% du produit intérieur brut. Tout à l'heure, on faisait référence au service de la dette, et le service de la dette, alors je suis allée regarder parce que je n'étais pas tout à fait au clair là-dessus, c'est 6%, tout compris, c'est-à-dire évidemment intérêt et remboursement du capital, c'est 6% par an. Donc on parle beaucoup du service de la dette, on a raison d'ailleurs, mais je précise que le financement public de la santé en France, c'est 8% du PIB, c'est-à-dire plus. Alors, le problème que ça pose, c'est pas tant le problème du niveau, enfin de l'importance de ce financement public, parce que finalement, après tout, il n'est peut-être pas suffisant, hein, j'en sais rien, c'est pas du tout à cette question que je vais essayer de répondre. En revanche, ce qui est évidemment un problème et qui a été déjà signalé par mes prédécesseurs, c'est que structurellement, la dépense de santé augmente plus vite que le produit intérieur brut et que par conséquent, il y a un problème structurel, un déficit structurel du financement public. Et donc, par la force des choses, on est obligé, c'est important, enfin c'est même essentiel, c'est tout à fait majeur, de s'intéresser à la façon dont les choix publics d'allocation des ressources sont faits dans ce secteur. Alors, au fond, et en schématisant à outrance, hein, je m'en excuse, mais enfin, on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de respecter mes 10, voire peut-être 15 minutes. Au fond, on peut schématiser la question qui est posée aux décideurs publics, alors évidemment, c'est à mettre au pluriel, hein, à l'instant T, c'est-à-dire à un moment donné du temps, de la manière suivante. On a à l'instant T une stratégie de prise en charge, dans une situation quelle qu'elle soit, que j'ai notée A par commodité, et la question est, est-ce qu'il faut remplacer la stratégie A par la stratégie B, la stratégie B résultant de l'innovation ou résultant de toute autre question qui peut être posée. Alors, c'est une question extrêmement générale, et je dirais qu'elle est presque exhaustive, parce que ça intéresse toutes les situations de prise en charge par le système de santé, aussi bien les stratégies thérapeutiques, on a parlé beaucoup du médicament, de l'ambulatoire, de l'hospitalier. Ça peut concerner le médicament, mais ça peut concerner aussi les dispositifs médicaux. On met là-dessous tous les équipements, finalement, qui sont à l'origine de beaucoup d'innovations, mais ça peut aussi concerner l'organisation des soins. Et par exemple, ce dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas tout à fait bien développé en France, les soins à domicile par rapport aux soins hospitaliers, par exemple. Ça peut concerner des stratégies diagnostiques, des dépistages, on parle beaucoup de dépistage en ce moment, il y a le dépistage du cancer du sein qui est maintenant organisé au plan national, le dépistage du cancer colorectal, etc., etc. Et ça peut concerner aussi des stratégies de prévention comme les vaccinations, mais aussi des contrôles de don de sang, etc., etc. Donc je ne parle pas d'un sujet mineur, je parle vraiment d'un sujet absolument majeur et je dirais presque exhaustif. Alors, qui dit décision dit critère de jugement. Et donc, je crois que ce qui est vraiment important à considérer, c'est que les critères de jugement ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Alors, il y a le premier critère de jugement, qui est celui des professionnels de santé. Là, je me place du côté de l'offre de soins. Et au fond, les professionnels de santé, qu'est-ce qu'ils disent ? Le résultat de santé d'une stratégie de prise en charge. Ce qu'on appellera l'efficacité, pour simplifier, évidemment, l'efficacité peut être déclinée de beaucoup de façons différentes, on se contentera de ce terme-là. Et la règle de décision, énoncée de manière extrêmement simple du point de vue des professionnels de santé, c'est la stratégie B doit remplacer la stratégie A si B améliore le résultat de santé de A. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et tout le mouvement de recommandation de pratiques cliniques s'inspire de ce critère de jugement. Question, est-ce que ce critère de jugement est suffisant pour le décideur public? Et la réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que à côté, évidemment, du résultat de santé, qui est un critère de jugement tout à fait pertinent et légitime, il y a un autre critère qui est celui du montant de ressources mobilisées. Et alors pourquoi? Ben, c'est pour une raison vraiment très très simple que forcément nous, en tant qu'économistes, mais même, je veux dire, économiste ou pas, c'est la question. Avant toute décision humaine d'affectation de ressources à une utilisation donnée, il me semble qu'on doit se poser la question, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, quelles seraient les autres utilisations possibles et est-ce qu'elles seraient éventuellement plus intéressantes? Alors, je m'arrête juste 30 secondes là-dessus, parce que c'est vraiment la question, et je suis toujours un petit peu sidérée de constater que c'est apparemment une question qui ne vient pas à l'esprit de tout le monde, et peut-être que c'est un fait culturel, et il me semble que dans les pays anglo-saxons, c'est une question qui est abordée d'une manière beaucoup plus systématique, y compris au plan individuel. Alors, à partir de ce moment-là, on va se dire que les règles de décision du décideur public devraient se fonder sur deux critères qui sont à la fois l'efficacité d'une part et le coût d'autre part, pour dire les choses de manière très rapide. Et c'est précisément là que intervient ce qu'on appelle l'évaluation économique, c'est-à-dire de l'aide à la décision pour le décideur en santé, fondée sur ces deux critères. Alors, il y a deux situations qui sont extrêmement simples, c'est vraiment que du bon sens. Toujours en réponse à la question, est-ce qu'il s'agit de remplacer A par B? Premier cas de figure, si B améliore l'efficacité de A sans augmenter le coût, B doit remplacer A. Alors, il y a toutes sortes d'exemples qu'on peut citer, je n'y arrêterai pas parce qu'on a très peu de temps, mais en fait, si dans le débat la question se pose, je pourrais effectivement revenir là-dessus. Et puis il y a un autre cas de figure qui est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pourrait croire. On en a déjà eu quelques exemples par du fait des présentations précédentes. C'est lorsque B diminue le coût de A sans détériorer l'efficacité. Il y a énormément de situations qui sont de cette nature. J'ai pris le cas le plus simple d'utilisation des médicaments génériques. C'est-à-dire pour le même principe actif, le médicament générique qui coûte 5, 10 fois, quelquefois encore plus, moins cher que d'autres médicaments du même principe actif, me semble-t-il, devrait être utilisé systématiquement. Bon, pour cette simple raison, c'est-à-dire sur le critère de ce qu'on appelle la domination, c'est-à-dire que dans les deux cas que je viens de citer, on dira, c'est juste une façon de parler qui est à mon avis assez explicite, que B domine A. Et quand B domine A, il n'y a, à mon avis, aucune question à se poser. Évidemment, il faut regarder ça d'un petit peu plus près, mais il me semble que les choses sont quand même très simples. Il y a un cas, évidemment, fréquent, où les choses sont beaucoup plus simples que ça, c'est celui où B améliore l'efficacité tout en coûtant plus cher. Et donc, c'est le cas de la plupart des stratégies innovantes en santé, et nous savons qu'il y en a énormément. Et dans ce cas-là, eh bien, quelle est la réponse de l'évaluation économique? Comment peut-on faire? Alors, je vais moi vous développer rapidement une des réponses qui sont apportées, pas en France, mais au Royaume-Uni, sachant que je regardais là un papier juste avant de venir, et que c'est une réponse qui est utilisée aujourd'hui dans 7 pays européens, le Royaume-Uni, mais il y a aussi les Pays-Bas, il y a la Hongrie, il y a la Suède, il y a la Belgique. Donc ce n'est pas une réponse qui est apportée à un endroit donné et qui serait donc tout à fait particulière. C'est une réponse qui est assez générale. Et si on a le temps d'en parler, je dirais un petit peu comment ça se passe aujourd'hui en Allemagne, sachant que la réponse apportée est un petit peu différente, mais qu'au bout du compte, ça revient à peu près à la même chose. Alors, quelle est la réponse qui est apportée par le, alors ça s'appelle NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE donc. Et le NICE, c'est un organisme qui a été mis en place par le National Health Service, donc qui couvre le Royaume-Uni, mais le NICE énonce des recommandations plutôt, si j'ai bien compris, à l'usage de l'Angleterre et du Pays de Galles, sachant que, comme vous savez, au Royaume-Uni, les choses sont très décentralisées. Donc, qu'est-ce qui est dit, enfin, quelles sont les bases de la réponse apportée par NICE à la question qui est posée? Qu'est-ce qu'on fait lorsque B améliore l'efficacité de A tout en coûtant plus cher? Alors, j'ai essayé, ça n'a pas été très simple, parce qu'on voit comment les choses sont faites, on comprend à peu près comment les choses sont faites, mais c'est beaucoup plus compliqué de se dire, mais au bout du compte, si on veut aller au fond de la question, qu'est-ce qui sous-tend cette démarche? Quels sont les principes qui sous-tendent cette démarche? Et j'ai tendance à penser que si on est d'accord sur les principes, on est d'accord sur la démarche, et que si on n'est pas d'accord sur la démarche, il faut comprendre pourquoi, et en particulier, est-ce qu'il y a des principes qui nous heurtent dans la démarche qui est proposée. Alors, j'ai moi distingué trois principes qui me paraissent vraiment les principes fondateurs de la démarche. Je vais les énoncer tous les trois. Le premier, qui a l'air d'aller de soi, le système de santé fonctionne dans l'intérêt de la population. Je m'arrête 30 secondes, ça a l'air d'aller de soi. En réalité, on peut quelquefois se demander si le système de santé ne fonctionne pas dans l'intérêt des professionnels de santé ou d'autres catégories de population. Premier principe. Ensuite, puisqu'on s'intéresse à l'intérêt de la population, à quoi les individus de la population attachent-ils de l'importance? Eh bien, la réponse de NICE, c'est les personnes, les individus de la population attachent de l'importance à la durée de leur vie, bien sûr, mais aussi à la qualité de leur vie. Ce concept d'intérêt de la qualité de vie liée à la santé, c'est un concept qui est relativement récent finalement, puisqu'il remonte à peu près aux années 70 en tant que concept opérationnel. Attention, en tant que concept opérationnel. Et par conséquent, l'efficacité, ce que j'ai appelé l'efficacité jusqu'à maintenant, doit prendre en compte ces deux dimensions. Le second principe, à partir du moment où ce premier principe est accepté, comment mesurer l'efficacité? Je précise qu'à partir du moment où NICE a des visées opérationnelles, NICE est obligé de fonder ses recommandations sur des mesures. Il ne peut pas se contenter de dire c'est peut-être un peu mieux de faire ci, de faire ça. Non, ce n'est pas suffisant. Donc l'efficacité est mesurée en durée de vie, pondérée par la qualité de la vie. Et l'unité de mesure de l'efficacité est donc l'année de vie en bonne santé, en équivalent bonne santé, dira-t-on. Alors ça, c'est l'énoncé d'un premier principe d'équité, à savoir, pour la collectivité, l'année de vie en bonne santé vaut 1, quel que soit le bénéficiaire. 1. C'est vraiment un principe d'équité. Ensuite, le troisième est un petit peu plus difficile à énoncer. Dans la mesure où on est dans la situation que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire lorsque on a une stratégie B qui est susceptible de remplacer A en étant à la fois plus efficace et plus coûteuse. On ne peut pas s'en tenir à ce qui se passe dans une situation de santé donnée. On est obligé de regarder les choses de façon plus large, parce qu'on ne sait pas répondre à la question si on reste sur cette situation de santé-là. Et donc, on va considérer toutes les situations où une stratégie A pourrait être remplacée par une stratégie B plus efficace et plus coûteuse, sachant qu'on suppose évidemment que les situations de domination ont été réglées. Alors, à ce niveau, il y a deux cas de figure qui se présentent. Alors, il y en a un qui est purement hypothétique, mais je le cite quand même, parce que c'est un cas d'école. Et puis, il y a la réalité. Alors, le cas d'école, qu'est-ce que c'est? Le cas d'école, c'est la collectivité est prête à supporter le coût total qui résulterait du remplacement systématique de toutes ces stratégies A par toutes les stratégies B considérées. Et je dis que c'est un cas d'école, pourquoi? Parce que si on a été un petit peu proche de la décision, on s'aperçoit que le décideur, public ou privé d'ailleurs, tout le temps, tous les jours, il arbitre. C'est-à-dire qu'il est confronté à une quantité de demandes concurrentes, qui en général sont des demandes qui coûtent de l'argent, qui sont en général toutes intéressantes pour une raison ou pour une autre, mais n'empêche qu'on ne peut pas tout faire. Donc ce cas d'école, je suis désolée, c'est ennuyeux, vraiment on est tous désolés de ça, mais là on est dans notre vrai rôle en tant qu'économiste en disant, nous ce qui nous intéresse c'est la réalité et l'économie c'est l'allocation des ressources rares. Donc on revient vraiment aux fondamentaux. Alors, sachant ça, on ne peut pas tout faire. Quelle est la règle de décision, ou plutôt le processus de décision qui est mis en œuvre par NICE à ce stade? Dans chaque situation de santé, on va former ce qu'on appelle le ratio coût-efficacité du remplacement de A par B, c'est-à-dire le quotient du delta coût de B par rapport à A au delta d'efficacité de B par rapport à A, et on va obtenir un coût par année de vie gagnée qui résulte du remplacement, qui résulterait du remplacement de A par B, dans chacune des situations considérées. Et alors c'est là qu'intervient un nouveau principe d'équité. Et qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit quelque chose, encore une fois, là, qui est extrêmement simple. Il dit, si la collectivité accepte le remplacement de A par B avec un ratio coût-efficacité donné, mettons de 10 000 euros par année de vie gagnée, alors, sur la base de ce principe d'équité, la collectivité est obligée d'accepter de remplacer A par B dans une autre situation où le ratio coût-efficacité serait plus faible. Parce que, comment pourrait-on défendre la décision selon laquelle on refuserait à 5 000 euros l'année de vie pour l'année de vie gagnée, alors qu'on accepterait 10 000 euros d'année de vie gagnée. Autrement dit, ce principe d'équité, il énonce qu'il y a un droit de tirage, en quelque sorte, de chacun sur les ressources collectives, et que ce droit de tirage est le même pour tout le monde. C'est exactement ça le principe sous-jacent. À partir du moment où on accepte ce principe, les corollaires sont les suivants, c'est de la pure logique, il n'y a pas à en sortir. Les situations en question sont classées par ordre dans leur croissance de ratio coût-efficacité. On commence par ce qui coûte le moins cher rapporté à l'année de vie gagnée. Si on pose mentalement qu'il y a un coût total acceptable pour la collectivité, alors à ce coût total acceptable correspond un seuil d'acceptabilité du ratio coût-efficacité. Et la règle de décision, c'est B remplace A si le ratio coût-efficacité de B par rapport à A est inférieur à ce seuil. Ça veut dire que c'est, à partir du moment où le principe est accepté, et encore une fois c'est un principe d'équité, on arrive forcément à ce type de conclusion. On peut être heurté, mais c'est comme ça. Je veux dire, voilà. C'est à partir du moment où on considère que tout ne peut pas être fait pour tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Et c'est le principe de l'économie. Alors, si on essaye de conclure cet ensemble de questions, l'éthique des choix publics qui se manifeste au travers de tout ça, c'est d'abord une éthique qui est fondée sur la question initiale, c'est-à-dire ces ressources pour une utilisation donnée, toutes les fois qu'on se dit qu'on pourrait utiliser ces ressources pour quelque chose. La première question à se poser, c'est est-ce qu'elles pourraient pas être mieux utilisées ailleurs ? Encore une fois, tout est fondé là-dessus. C'est l'idée fondatrice du coût d'opportunité en économie, mais dont on décline assez rarement les conséquences, en tout cas pour ce que j'en sais, en France et dans le secteur de la santé en particulier. Alors, les réponses de l'évaluation économique, c'est ce que j'ai essayé de développer, sont simples dans les situations de domination, qui sont beaucoup plus courantes que ce que l'on pense. Et donc là, il y a ce qu'on peut appeler des gisements de productivité qui sont absolument considérables et en principe indolores, même si évidemment il peut y avoir des réactions quelquefois difficiles à comprendre du point de vue de l'ensemble de catégories de population. Et la réponse du NALS, pour terminer, dont on pourra discuter bien entendu, est transparente. Et c'est une vertu qui est extrêmement importante dans tout processus de décision, en particulier public. Pourquoi ? Parce que toutes les parties prenantes savent exactement comment la décision est prise, quel est le processus qui a été suivi. Et les industriels ne sont pas les derniers à demander des règles transparentes, parce qu'au moins ils savent à quoi s'en tenir et ils savent comment jouer avec les règles. La réponse du NICE, ça n'est pas non plus un coup près, c'est-à-dire voilà le seuil qui a 30 000 livres par année de vie gagnée en bonne santé, et au-delà, on refuse tout, et en deçà, on accepte tout. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Il y a tout un processus délibératif. Bien entendu, il reste que la réponse du NICE peut être questionnée sur tout un tas de paramètres. Les questions de mesure, la valeur du seuil, et même les principes d'équité, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et j'ajoute qu'il y a d'autres réponses possibles de l'évaluation économique, mais que malheureusement, elles aboutissent toutes à la conséquence selon laquelle les stratégies qui sont trop coûteuses pour des résultats trop modestes sont écartées du financement collectif. Voilà. Je vous remercie.
Bon, merci.
Fin de matinée, et pour faire en sorte qu'il me reste du temps pour la discussion, je vais présenter de manière assez synthétique le lien entre ce qui a été présenté d'un point de vue théorique et le quotidien dans un cadre beaucoup plus français, en m'inspirant bien sûr de l'expérience que j'ai la chance de pouvoir acquérir en matière de prise de décision, en tout cas de rapprochement avec le décideur que constitue la Haute Autorité de Santé. Alors, de manière très synthétique, puisque Marie-Odile l'a présenté, je pense, très clairement, je crois qu'il est important de s'entendre sur ce que c'est que l'évaluation économique, et on l'a vu, c'est en fait l'application du calcul économique aux choix publics, sécurité routière, grands projets publics. Ce sont des méthodes qui ont gagné progressivement en robustesse, et je crois que les économistes et économètres sont interpellés sur leur capacité à être scientifiques, notamment par les médecins. Donc je pense qu'en la matière, il y a véritablement une acquisition de compétences avec une robustesse qui est donnée en matière de correction de biais, par exemple, par les méthodes économétriques. Ce sont des techniques qui sont de plus en plus développées dans certains pays très particulièrement développés comme la Grande-Bretagne, mais Marie-Odile rappelait qu'il y a d'autres pays dans lesquels ces techniques sont développées. Et enfin, elles ont été progressivement adaptées au cadre précis de la santé et se sont essentiellement développés à partir des années 70. Donc, bref rappel, et ils articulent effectivement les notions d'efficacité et de coût, et vous retrouvez sur ce graphique la synthèse de ce que Mariotti a présenté, sachant qu'en bleu, nous avons finalement les situations qui sont finalement les plus intéressantes et les plus difficiles. Je pense en particulier à la situation 1, où l'on serait sur un médicament à la fois, par exemple, un médicament à la fois plus coûteux et plus efficace, et pour lequel tout le raisonnement qui a été précédemment présenté vaudrait, alors même que la situation 2 ne pose pas de difficulté, elle a déjà été évoquée, et que la 3 est bien évidemment à éviter. Donc, ce graphique qui montre bien l'articulation entre l'efficacité médicale d'une part et les différences de coûts d'autre part, nous invite à réfléchir aux situations difficiles, ce qu'a fait Marie-Odile, c'est-à-dire le cadran 1. Alors, si on passe de la théorie à la pratique, quelle a été finalement la situation en France, eu égard au développement dans d'autres pays de ces techniques? Eh bien, on trouve quand même certaines résistances. Et de fait, plutôt que de développer des analyses économiques dans le secteur de la santé, c'est un peu brutal, c'est une réponse à une certaine frustration de la part des économistes de la santé, je pense qu'on a quand même essayé de développer un certain nombre de stratégies que j'appelle de contournement, et qui sont par exemple de penser que la croissance permettrait de créer suffisamment de valeur pour trouver les ressources nécessaires. Je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, cette question ne se pose plus. Que les économies qui ont été réalisées par la réduction des gaspillages, les stratégies dominantes que Marie-Odile évoquait, eh bien celles-là doivent générer des ressources qui devraient permettre en fait, de gager les dépenses à venir sur des médicaments, par exemple, très coûteux. Et bien, je crois que Marie-Odile a montré très clairement que ces économies que l'on pourra réaliser sur le gaspillage ne suffiront plus à couvrir les besoins qui sont sans cesse croissants. On a aussi pensé qu'on pourrait prélever sur d'autres secteurs de dépenses publiques qui sont considérés comme moins prioritaires. Et la Défense a fait les frais récemment d'une réduction assez majeure de ses budgets. Sont-ils affectés à la santé? C'est une autre question. Les questions d'affectation entre grands budgets sont complexes, mais en tout état de cause, il y a des limites à cette politique. Et enfin, on s'est aussi endetté sur le long terme. Et la question qui se pose aujourd'hui de manière assez explicite, c'est celle de la pérennité du système, sachant qu'à terme, il y a éventuellement une dette pour les enfants et les petits-enfants. Donc, autant de stratégies qui ont clairement montré leurs limites et qui nous appellent à réfléchir, tant que faire se peut, dans notre capacité à éclairer le décideur. Alors, cette prise de conscience de la nécessité d'établir des priorités, moi, je pense qu'elle résulte d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels on documente assez souvent, bien sûr, l'apparition de nouveaux besoins comme la dépendance, mais plus récemment, des questions concernant le prix que j'ai indiqué comme exorbitant, ou je devrais l'avoir fait entre guillemets, mais le fait est qu'il est dans des ordres de grandeur tout à fait différents de ceux des autres médicaments pour des pathologies dont on a déclaré qu'elles étaient orphelines. Et ce n'est pas seulement ces pathologies orphelines, ce sont aussi des médicaments très coûteux pour des petites populations. Donc il y a de vraies questions qui était récemment évoqué dans le cadre de la remise du rapport par l'OCDE des questions de fixation du prix du médicament dans les différents pays, et c'est une préoccupation qui, bien sûr, dépasse le cadre français, et la question du renforcement des inégalités sociales de santé qui ne manque pas d'interpeller dès lors que l'on met par ailleurs en place, comme le rappelait Pierre-Yves, la couverture maladie universelle, la complémentaire, et que l'on voit malgré tout, malgré cette présence forte et renforcer l'État providence, le renforcement de ces inégalités sociales de santé. Autant de déterminants, mais sûrement d'autres encore, qui nous conduisent à réfléchir à la façon d'établir des priorités pour assurer la pérennité du système. Et de fait, la loi de financement de la sécurité sociale a conféré à la HAS une nouvelle compétence dite médico-économique, là j'ai mis les guillemets et on y reviendra. Et ceci n'a pas manqué de susciter quelques débats. Je pense que ce serait intéressant, dès lors qu'on se rapproche de la décision, que d'y réfléchir ensemble. Donc, qu'est-ce que la haute autorité fait jusqu'ici et qu'est-ce qui va changer dès lors que l'on va embrasser ces nouvelles missions? C'est une autorité administrative indépendante qui rend des comptes, je vous rassure, malgré tout, et beaucoup de comptes, et qui a entre autres pour mission l'évaluation de la qualité avec, je le rappelle, c'est important, un rôle consultatif sur les conditions de prise en charge par la collectivité, puisqu'elle émet des avis sur ce qu'on appelle le service médical rendu des technologies de santé, c'est-à-dire technologies au sens médicaments, actes et procédures, en considérant pour le moment la dimension d'efficacité qu'évoquait Marie-Odine, donc l'efficacité médicale au niveau individuel, c'est-à-dire le ratio bénéfice-risque pour une personne donnée, et une considération un petit peu plus collective, mais qui, pour le moment, est définie sur la notion de population cible et qui s'appelle l'intérêt de santé publique. Elle pourrait être beaucoup plus large et, comme on va le voir, elle appelle une extension. Donc un rôle consultatif, et puis par ailleurs, toute la production de recommandations de bon usage, d'actions de formation pour les professionnels et d'information des usagers, qui là renvoie à la question de la modification des comportements, mais qu'on a vu précédemment qu'elle était tout à fait fondamentale, pour assurer justement une adaptation efficace, l'efficience dans l'usage du système de santé, et qui, elle, a priori, ne pose pas de difficultés d'ordre éthique, puisqu'elle nous permet simplement de remplacer une stratégie par une autre, sachant que c'est plus efficace et qu'il n'y a pas de question majeure en la matière. Il suffit de produire la recommandation et de faire en sorte qu'elle soit suivie, ce qui déjà en soi est un peu plus compliqué. Alors, de cette situation de départ, où sont seulement prises en considération des dimensions individuelles d'efficacité médicale, il va à présent revenir à l'HAS de réfléchir à ce que j'ai appelé le service rendu à la collectivité, pour justement faire la balance entre le service médical rendu, d'une part, et puis cette dimension plus collective que l'on souhaite donner à présent aux avis, toujours consultatifs, qui sont rendus par l'HAS et qui doivent prendre en compte la question, finalement, de la pertinence de l'allocation des ressources à travers cette notion de sacrifice consenti, de coût d'opportunité que Marie-Odile avait présentée. Alors, le médico-économique, c'est un terme, bien évidemment, en tant qu'économiste, qui me fait sourire, pardonnez-moi, mais on n'a pas encore trouvé l'équivalent dans un autre secteur que la santé, que ce mariage, que cette chasse de dénomination de l'économique par un mot médico devant. J'en parlais hier aux échos parce que ça continue à m'interpeller. On n'a pas encore, par exemple, produit le terme écolo-économie, mais on fait la médico-économie. C'est peut-être une façon de dire que dans le domaine de la santé, plus que tout autre, parce que Dieu sait si la question de la spécificité de la santé est systématiquement renvoyée aux économistes de la santé qui ont choisi ce domaine d'application par rapport à d'autres domaines d'application comme l'environnement, eh bien, cette question de la spécificité qui est impliquée par la dimension, finalement, de vie et de mort des décisions qui sont prises par les médecins, eh bien, ceci a peut-être expliqué cela, c'est-à-dire le fait qu'à présent, le mot économique est couvert de cette chaste feuille de vigne, en l'occurrence, le médico-économique. Alors, je m'y plie parce que je conçois l'importance qu'il y a rappeler cette dimension médicale et en particulier cette dimension éthique qui était le titre exact de la présentation de Marie-Odile, et je crois qu'effectivement dans ce domaine plus que tout autre il importe de qualifier le raisonnement économique et de l'adapter au domaine qui est le sien. Donc un outil au service d'une meilleure utilisation des ressources rares qui sont affectées à la santé, et cette traduction finalement dans la loi au bout de 2 ans de bons et loyaux services, puisque dans un premier temps, l'HAS n'avait pas cette mission, de prendre en compte dans cette démarche d'évaluation aussi scientifique que possible, il faut toujours là-dessus rassurer les médecins qui pensent que l'économie c'est encore un peu de l'idéologie parce qu'il y a des jugements de valeur, en oubliant, enfin, pour le dire, que toute décision, quelle qu'elle soit aujourd'hui déjà prise, implique des jugements de valeur, mais qui sont dans ce cas implicites, et donc d'un point de vue citoyen, non discutable, eh bien, dans le cadre de cette démarche d'évaluation aussi scientifique que possible des technologies de santé, on a introduit cette dimension collective en faisant en sorte de pouvoir ouvrir le dialogue citoyen qu'évoquait déjà Marie-Odile. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas? Parce que ça, je pense que ça mérite qu'on s'y arrête. Ça n'est pas un instrument de rationnement des soins de santé. Ça n'est pas, je me bats bien évidemment en bonne connaissance de cause pour avoir travaillé 3 ans au ministère des Finances dans les années 90 et 93. Certains à cette table y ont aussi travaillé. On a tous rédigé ce qu'on a appelé des plans d'économie maladie, dans lesquels, parfois de manière assez rapide, on validait ex post les ordres de grandeur dont on avait besoin. Tout ceci, c'est off, je ne suis pas supposée vous le dire, mais il me semble que c'est important de le rappeler, ça n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Je pense que si l'on doit vraiment travailler vers l'efficience du système de santé, c'est beaucoup plus par ce raisonnement explicite, scientifique, économique que l'on cherche à mettre en avant, avec la balance des coûts et des bénéfices, et pas juste sur un coin de table, tard, un soir, la somme des coûts. Donc ce n'est pas du rationnement des soins de santé, et si ça doit le devenir, j'en partirai très vite. Ça n'est pas non plus l'inclusion de l'arbitraire dans les évaluations. J'ai déjà évoqué le petit débat entre médecins et économistes sur le fait que l'économie soit ou pas scientifique. Je n'y reviendrai pas, et ça n'est surtout pas un effet de mode. Il y a eu, on a évoqué hier encore, je vous donne les remarques qui ont pu être faites à la table ronde sur la place de l'économie dans l'évaluation. Eh bien, on a évoqué le fait que, ma foi, c'est un serpent de mer et que ça peut toujours revenir, mais ça peut aussi partir. Donc, je crois que là, c'est pour rester et qu'il faut effectivement transformer cette opportunité et faire en sorte qu'elle soit bien saisie de manière intelligente, non pas dans une logique de rationnement, mais de rationalisation du système de santé. Alors, quelle légitimité a confié finalement l'évaluation économique à la HAS? Vous savez que ça a fait l'objet de débats assez longs lors de la naissance de la HAS en 2005 pour savoir s'il fallait ou pas aller au-delà de la pure, je dis bien pure, dimension médicale, et s'il fallait éventuellement aller jusqu'à l'introduction de l'évaluation économique. On est arrivé à la conclusion, je pense, tous ensemble, que la place assez particulière finalement de la HAS pouvait permettre de fonder la politique d'efficience qui est celle que poursuit le gouvernement de manière très claire aujourd'hui, non pas de rationnement mais de rationalisation, par le simple fait qu'elle a une position d'indépendance. Donc les avis scientifiques qui sont rendus, tant médicaux qu'économiques à présent, vont permettre à la HAS de jouer pleinement son rôle au service de la décision qui est prise par le ministère de la Santé et qui est donc d'en fonder la politique d'efficience pour, justement, assurer, en tout cas, aider, contribuer à la pérennité du système de santé. Et cette place d'indépendance est idéale dans la chaîne de décision dès lors que nous sommes après l'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire, ayant la responsabilité de donner cette autorisation de mise sur le marché et que nous intervenons avant la négociation de prix par le ministère, et donc décision aussi de remboursement, puisque les deux décisions sont importantes, le prix et le remboursement, sachant donc que cette position est une position d'indépendance et en même temps consultative, le ministère pouvant ou pas suivre la HAS en la matière. En guise de conclusion, pour tenir les temps, parce que ce qui m'intéresse, ce sera bien sûr ma réaction à la salle, c'est de dire qu'à présent que les missions nous sont confiées, les impératifs sont forts. Je ne sais pas si vous avez suivi l'activité, nous l'avons suivi bien sûr de manière tout à fait vigilante et le ministre de l'économie et des finances nous a déjà rappelé qu'il était grand temps que nous œuvrions. Je rappelle que la mission était confiée en début d'année, que dès le 1er juillet, une nouvelle commission, la CESP, Commission d'évaluation économique et de santé publique, s'est réunie. Marie-Odile, on est la vice-présidente, et c'est dans ce cadre-là que nous œuvrons toutes les deux, je pense, pour faire avancer les concepts qui vous ont été présentés. Mais c'est aussi une commission très interdisciplinaire, ça m'est parfois ce choix que j'ai fait, qui est vraiment le mien, mais parfois reproché par mes amis économistes. Pourquoi finalement 6 économistes sur un total de 25 personnes? Eh bien, c'est peut-être parce que d'une part, l'approche technique peut être donnée par des consultations, des travaux, des groupes d'experts économistes, et que le débat en commission doit être un débat qui doit être nourri d'une part par des représentants d'usagers, d'autre part par des représentants de professionnels de santé, ils sont 6 dans la commission, et enfin par des représentants de 8 disciplines différentes, parce que la philosophie, l'éthique, la sociologie, c'est au moins aussi important pour être au chevet de la santé que l'économie. Donc vous voyez, en la matière, une position un peu iconoclaste pour une économiste qui a peut-être permis, en tout cas je l'espère, d'avoir une réflexion qui soit concertée entre disciplines, entre professionnels et entre représentants des sciences sociales, et puis de manière plus générale avec les parties prenantes, bien sûr, les destinataires en dernier ressort, c'est-à-dire les décideurs, mais aussi l'industrie, et ces réflexions qui sont menées avec l'industrie sont extrêmement importantes, puisqu'elles nous permettent de tenter de cheminer ensemble, à moyen voire long terme, sur un objectif partagé. Je vous remercie.
Bien, je remercie les intervenants. leur avais attribué entre 12 et 15 minutes, ils en ont pris entre 20 et 25 minutes. Ça illustre bien combien sont difficiles les politiques de rationnement. Comme l'a dit Pierre-Jean, on vote un budget en déséquilibre, on augmente le déséquilibre. Comme il n'y a aucun moyen de le couvrir, tout le monde fait le déséquilibre. Je n'avais aucun moyen de les couper, et en plus, ils prenaient bien garde de vous regarder et de ne pas me regarder, pour ne pas voir mes signes, donc cela a duré beaucoup plus longtemps. Donc je pense que entre eux, ils ont des questions à se poser, mais que la première chose est de tourner vers la salle et de vous inviter à les questionner sur les différents points qui ont été abordés et éventuellement sur d'autres.